l'écho d'économie.
Le consortium Congo n'est pas à vendre juge déséquilibré le projet hydroélectrique de Busanga. Dans un communiqué lundi, la plateforme fait remarquer que ce programme profite largement aux intérêts chinois au détriment de la RDC. L'invité de l'économie, c'est Emmanuel Ndimubandi, directeur de l'environnement minier au ministère de Mines. Il revient sur la notion de la sûreté financière pour la réhabilitation de l'environnement dans les secteurs de mines, sujet débattu à Lubumbashi par les opérateurs miniers, les banquiers et la société civile. Mesdames et messieurs, bonjour. Le consortium Congo n'est pas à vendre, juge déséquilibré. Le projet hydroélectrique de Busanga, une infrastructure censée produire 240 MW pour alimenter en priorité le projet minier Sicomines. Cette structure pro-démocratie a livré cette information dans un communiqué rendu public ce mardi à partir de la ville de Lubumbashi. Elle fait remarquer que le programme Busanga profite largement aux intérêts chinois au détriment de la RDC. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Pour relever ces défis, le consortium Congo n'est pas à vendre appelle les gouvernements congolais à amener un audit indépendant du projet Sicohydro, à revisiter les accords juridiques entre les parties prenantes ainsi qu'à modéliser le projet pour les rendre véritablement bénéfiques aux Congolais. Ce consortium alerte par ailleurs sur les risques économiques futurs liés au projet Sicohydro qui pourrait rencontrer des difficultés dans les remboursements du prêt principal et des intérêts ainsi que dans la couverture des coûts de fonctionnement annuel. Dans son rapport, Congo n'est pas à vendre souligne également que les modalités internes de gestion de la part congolaise dans Sicohydro restent floues et non documentées. À l'issue de son analyse, cette organisation citoyenne estime également que le projet Busanga, bien que stratégique sur le plan énergétique, ne garantit aucune rentabilité durable pour la RDC en raison des nombreuses exonérations et avantages injustes accordés à la partie chinoise. Enfin, aucune réponse n'a été apportée aux demandes d'information du consortium Congo n'est pas à vendre par les institutions publique concernée.
La société AVZ Minéral poursuit les discussions sur le projet contesté des lithium de Manono. La société minière australienne confirme être en négociation avec plusieurs parties, dont Cobalt Metals, à propos du projet de lithium de Manono, l'un des plus importants gisements du pays. Engagé dans une procédure d'arbitrage contre la République démocratique du Congo, AVZ précise ne pas être partie à un accord qui confierait à Cobalt des développements de la partie du sud du Jura. Cependant, la compagnie dit rester ouverte à un dialogue constructif pour parvenir à un compromis respectant ses droits légaux et ses relations commerciales existantes, tout en assurant une issue favorable à ses actionnaires. Ces dossiers s'inscrivent dans le contexte d'une course mondiale au lithium, minerai clé pour la transformation énergétique où la RDC entend jouer un rôle majeur. Plusieurs produits congolais d'exportation affichent une tendance baissière sur le marché international durant la période du 28 juillet au 2 août. C'est ce que révèle le mercurial du ministère du Commerce extérieur. Parvenu ce mardi à Radio Capi, parmi ces produits figurent le café robuste, le cacao et le cobalt. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
En tête de liste de ces produits agricoles, on retrouve les cafés Robusta dont les prix est passé de 3,35 dollars américains à 3,30 les kilos. Le cacao, quant à lui, se négocie à 7,41 dollars américains les kilos contre 7,36 auparavant. Du côté des produits miniers, le cobalt enregistre une légère baisse sur les marchés internationaux, passant de 32 650 dollars américains à 32 644 la tonne. Non. Les cuivres, sur la même tendance, se vendant à 9 751 dollars américains la tonne contre 9 740 la semaine précédente. En revanche, certains produits sont en hausse, comme les cafés Arabica, dont le prix est passé de 5,49 dollars américains à 5,57 les kilos. Selon le ministère du Commerce extérieur, l'or se négocie actuellement à 5,8,16 dollars la tonne contre 5,9 dollars américains sur les marchés internationaux. Certains produits agricoles, comme miniers, sont restés stables. Il y a entre autres les thés, les concentrés de tintal, l'huile de palme et les ketchup.
En République démocratique du Congo, la hausse de prix marque une pause. Selon l'Institut national de la statistique, l'inflation hebdomadaire est tombée à 0,115% au niveau national et à la quatrième semaine de juillet après 0,126% la semaine précédente. À Kinshasa, elle s'est stabilisée à 0,120% contre 0,122% il y a 7 jours. Les produits alimentaires restent les principaux moteurs, représentant plus de 72% de l'inflation hebdomadaire devant les transports, le combustible et les fournitures scolaires. Une décélération qui constate avec la progression plus soutenue observée mi-juillet. En cumul, la hausse de prix atteint désormais 4,8% dans la capitale et 4,7% sur l'ensemble du pays. En Ituri, deux familles dont les maisons se trouvent dans la zone ciblée pour l'élargissement de la prise de l'aéroport de Bounia réclament leur indemnisation. Ces habitants affirment avoir été répertoriés depuis environ 4 mois, mais attendent toujours une suite. Elles appellent le gouvernement et l'entreprise Mongabaon chargée d'exécuter les travaux à les rétablir dans leurs droits. À noter que plusieurs dizaines de familles vivant près de l'aéroport ont déjà été déguerpies pour permettre l'avancement du chantier.
Écho d'économie.
Pour finir, l'invité de l'économie, c'est Emmanuel Ondimubanzi, directeur de l'environnement minier au ministère de Mines. Il revient sur la notion de la sûreté financière pour la réhabilitation de l'environnement dans les secteurs de mines. Un sujet qui a été débattu à Lubumbashi par les opérateurs miniers, les banquiers et la société civile. Il répond aux questions de Paulin Monanga.
Monsieur le directeur Emmanuel Ondimubanzi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous assistons à l'ouverture de cet atelier des formations sur l'harmonisation des pratiques légales et réglementaires, cas de la sûreté financière et réhabilitation de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cet atelier de formation?
Il y a environ une année, jour pour jour, nous étions dans cette salle à côté. J'étais invité dans un atelier de la FEC. Et à cette occasion, l'une des recommandations, c'était que la DPM ne reste pas dans les bureaux à Kinshasa, qu'on descende de temps en temps sur le terrain. Et bien aujourd'hui, je peux dire que je suis content parce que c'est chose faite. De deux, ce qu'il faut retenir, c'est que toute activité humaine, même le fait de rouler sur la route, même le fait de construire une maison, a fortiori une activité d'exploitation minière ou d'une carrière fait des dégâts à l'écosystème en général. Alors, le législateur a voulu que, pour remédier à ces impacts environnementaux négatifs qu'une activité minière ou de carrière pose sur l'environnement, d'abord, l'opérateur doit produire ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social.
Et que fait ressortir une entreprise dans une étude d'impact environnemental et social?
Dans l'étude d'impact environnemental et social, il décrit notamment l'écosystème et le milieu dans lequel il va évoluer et il décrit quels sont les impacts que ces activités auront sur l'eau, sur l'air, sur le sol et la végétation et la faune bien sûr. Et il décrit quelles sont les mesures qu'il prend pour atténuer ces impacts. Et c'est ça maintenant qu'intervient la réhabilitation. Pour ce faire, il fait sa réhabilitation tout au long du projet. L'État demande à ce qu'il constitue un montant. Ce n'est pas un versement, c'est la constitution d'un montant. Les fonds appartiennent à l'entreprise, mais garder dans une banque, présenter la preuve au gouvernement qu'il a continué cette sûreté financière pour que, à la fin du projet, s'il a failli en matière de ses obligations environnementales, l'État puisse se servir de cette sûreté financière, de ce montant pour réhabiliter l'environnement. En bref, c'est cela.
Et ce montant est évalué à combien?
Ce montant n'est pas évalué à une certaine hauteur, comme je l'ai dit, c'est à partir de la description des impacts, il détruit les mesures d'atténuation, et sur chaque mesure d'atténuation, il y a des montants, et qui vont bien sûr, même après la fermeture de la mine, parce qu'il y a aussi des activités qui sont prévues vie post-mine, comme la surveillance et tout cela. Donc, ces montants, ce sont des montants qui varient, mais il y a un chronogramme quand il a déjà évalué les montants, il verse ses tranches, il constitue ses tranches suivant un certain nombre d'années et nous, la DPM, nous sommes amenés à suivre la constitution de ces montants. Maintenant, la difficulté, c'est que il y a plusieurs banques. On ne sait pas maîtriser les montants qui sont constitués s'il n'y a pas une synergie entre nous, l'administration, les banques et les opérateurs miniers, surtout, et même entendement des dispositifs qui sont des dispositifs illégaux.
Et comment réagissent les entreprises minières par rapport à cette sûreté financière?
Les entreprises minières, comme c'est une obligation légale, elles constituent cette sûreté financière, comme je l'ai dit, mais de manière dont on doit harmoniser. Et si vous voyez, dans une étude d'impact environnemental et social, la sûreté financière montant est toujours prévue. Donc les entreprises s'y emploient, ils obéissent, mais on n'a pas le même entendement avec les banques et les opérateurs. Et c'est pour ça, vous verrez à la télé, nous avons même invité les mandataires à mine, qui sont aussi des partenaires importants en matière du code minier.
Est-ce qu'on peut facilement tracer cet argent et savoir comment est-ce que cet argent sera utilisé?
Oui, nous avons au niveau de la DPM une base de données et justement parmi les difficultés qui sont évoquées quand vous allez suivre, les difficultés, les défis pour suivre la traçabilité, c'est notamment les points que nous allons essayer d'exposer déjà dans les séances qui sont prévues avec des experts de la DPM pour montrer aux gens quelles sont les difficultés, qu'on ait le même entendement. Sinon la traçabilité, nous avons un fichier de suivi de ces données qui mérite bien sûr une amélioration.
Est-ce que les entreprises versent déjà cet argent, monsieur le directeur?
L'aspect est en vigueur. Je dois vous dire que le code minier révisé, comme on l'a dit déjà, dès l'année 2002, le code minier a prévu des dispositions environnementales. Donc, la mesure d'atténuation et réhabilitation de l'environnement minier est déjà en vigueur déjà depuis 2002. C'est à l'ancienne exploitation, on ne tenait pas compte des aspects environnementaux. Déjà, depuis 2002, on tient compte des aspects environnementaux. Et bien sûr, vous avez suivi depuis 2018 avec la révision. L'environnement va aussi avec la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous empruntons la terre de nos enfants. Nous devons garder cette terre pour les générations futures et la leur présenter dans un état viable avec un écosystème sain.
Monsieur Emmanuel Ndimubanzi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce magazine Écho d'économie. Dieudonné Nyangassa et Jean-Claude Siala se sont occupés de la partie technique. Jocelyne Moussaou et Blaise Dongala étaient à la réalisation. Sarah Soumbela, c'est moi. Merci beaucoup.